j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre s'intitule « Lettre à un otage ». C'est un texte fort qui parle de l'isolement, de la direction et du souci des autres. J'ai vécu 3 années dans le Sahara. J'ai rêvé, moi aussi, après tant d'autres, sur sa magie. Quiconque a connu la vie saharienne, où tout en apparence n'est que solitude et dénuement, pleure cependant ces années-là comme les plus belles qu'il ait vécues. Les mots « nostalgie du sable »,« nostalgie de la solitude », »,« nostalgie de l'espace » ne sont que des formules littéraires et n'expliquent rien. Or, voici que, pour la première fois, à bord d'un paquebot grouillant de passagers entassés les uns sur les autres, il me semblait comprendre le désert. Certes, le Sahara n'offre, à perte de vue, qu'un sable uniforme, ou plus exactement, car les dunes y sont rares, une grève caillouteuse. On y baigne en permanence dans les conditions mêmes de l'ennui, et cependant, d'invisibles divinités lui bâtissent un réseau de directions, de pentes et de signes, une musculature secrète et vivante. Il n'est plus d'uniformité, tout s'oriente. Un silence même n'y ressemble pas à l'autre silence. Il est un silence de la paix, quand les tribus sont conciliées, quand le soir ramène sa fraîcheur et qu'il semble que l'on fasse halte, voile repliée dans un port tranquille. Il est un silence de midi quand le soleil suspend les pensées et les mouvements. Il est un faux silence quand le vent du nord a fléchi et que l'apparition d'insectes arrachés comme du pollen aux oasis de l'intérieur annonce la tempête d'est, porteuse de sable. Il est un silence de complot quand on connaît d'une tribu lointaine qu'elle fermente. Il est un silence de mystère, quand se nouent entre les Arabes leurs indéchiffrables conciliabules. Il est un silence tendu quand le messager tarde à revenir. Un silence aigu quand la nuit, on retient son souffle pour entendre. Un silence mélancolique si l'on se souvient de qui l'on aime. Tout se polarise, chaque étoile fixe une direction véritable. Elles sont toutes étoiles des mages. Elles servent toutes leur propre dieu. Celle-ci désigne la direction d'un puits lointain, dur à gagner, et l'étendue qui vous sépare de ce puits pèse comme un rempart. Celle-là désigne la direction d'un puits tari, et l'étoile elle-même paraît sèche, et l'étendue qui vous sépare du puits tari n'a point de pente. Telle autre étoile sert de guide vers une oasis inconnue que les nomades vous ont chantée, mais que la dissidence vous interdit. Et le sable qui vous sépare de l'oasis est pelouse de contes de fées. Telle autre encore désigne la direction d'une ville blanche du sud, savoureuse semble-t-il, comme un fruit où planter les dents, telle la mer. Enfin, des pôles presque irréels aimantent de très loin ce désert, une maison d'enfance qui demeure vivante dans le souvenir, un ami dont on ne sait rien sinon qu'il est. Ainsi vous sentez-vous tendu et vivifié par le champ des forces qui tire sur vous ou vous repousse, vous sollicite ou vous résiste. Vous voici bien fondé, bien déterminé, bien installé au centre de direction cardinale. Et comme le désert n'offre aucune richesse tangible, comme il n'est rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure, loin de s'y endormir, s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'esprit. Je vaux dans le désert ce que valent mes divinités. Ainsi je me sentais riche, à bord de mon paquebot triste, de directions encore fertiles, si j'habitais une planète encore vivante, c'était grâce à quelques amis perdus en arrière de moi, dans la nuit de France, et qui commençaient de m'être essentiels. La France, décidément, n'était pour moi ni une déesse abstraite, ni un concept d'historien, mais bien une chair dont je dépendais, un réseau de liens qui me régissaient, un ensemble de pôles qui fondaient les pentes de mon cœur. J'éprouvais le besoin de sentir plus solide et plus durable que moi-même ceux dont j'avais besoin pour m'orienter, pour connaître ou revenir, pour exister. En eux, mon esprit logeait tout entier et vivait par eux en moi-même. Pour qui navigue en mer, un continent se résume ainsi dans le simple éclat de quelques phares. Un phare ne mesure point l'éloignement. Sa lumière est présente dans les yeux, tout simplement. Et toutes les merveilles du continent logent dans l'étoile. Et voici qu'aujourd'hui, où la France, à la suite de l'occupation totale, est entrée en bloc dans le silence avec sa cargaison, comme un navire tout feu éteint dont on ignore s'il survit ou non au péril de la mer. Le sort de chacun de ceux que j'aime me tourmente plus gravement qu'une maladie installée en moi. Je me découvre menacé dans mon essence par leur fragilité. Celui qui, cette nuit-ci, hante ma mémoire est âgé de 50 ans. Il est malade et il est juif. Comment survivrait-il à la terreur allemande? Pour imaginer qu'il respire encore, j'ai besoin de le croire ignoré de l'envahisseur, abrité en secret par le beau rempart de silence des paysans de son village. Alors seulement, je crois qu'il vit encore. Alors seulement, déambule au loin dans l'empire de son amitié, lequel n'a point de frontières. Il m'est permis de me sentir non immigrant, mais voyageur, car le désert n'est pas là où l'on croit. Le Sahara est plus vivant qu'une capitale, et la ville la plus grouillante se vide si les pôles essentiels de la vie sont désaimantés.